Des boiteux. Chapitre 11. Il y a 2 ou 3 ans qu'on accourcit l'an de 10 jours en France. Combien de changements doivent suivre cette réformation? Ce fut proprement remuer le ciel et la terre à la fois. Ce néanmoins, il n'est rien qui bouge de sa place. Mes voisins trouvent l'heure de leurs semences, de leurs récoltes, l'opportunité de leurs négoces, les jours nuisibles et propices, au même point justement où ils les avaient assignés de tout temps. Ni l'erreur ne se sentait en notre usage, ni l'amendement ne s'y sent. Tant il y a d'incertitudes partout, tant notre apercevance est grossière, obscure et obtuse. On dit que ce règlement se pouvait conduire d'une façon moins incommode, soustrayant, à l'exemple d'Auguste, pour quelques années le jour du bissexte, qui, ainsi comme ainsi, est un jour d'empêchement et de trouble, jusqu'à ce qu'on fût arrivé à satisfaire exactement cette dette, ce que même on n'a pas fait par cette correction, et demeurons encore en arrérage de quelques jours. Et si, par même moyen, on pouvait pourvoir à l'avenir, ordonnant qu'après la révolution de tel ou tel nombre d'années, ce jour extraordinaire serait toujours éclipsé, si bien que notre mécompte ne pourrait dorénavant excéder 24 heures. Nous n'avons autre compte du temps que les ans. Il y a tant de siècles que le monde s'en sert, et pourtant, c'est une mesure que nous n'avons encore achevé d'arrêter. Et telle que nous doutons tous les jours quelle forme les autres nations lui ont diversement donnée et quel en était l'usage. Quoi, ce que disent quelques-uns que les cieux se compriment vers nous en vieillissant et nous jettent en incertitude des heures mêmes et des jours? Aidez-moi, ce que dit Plutarque, qu'encore de son temps l'astrologie n'avait su borner le mouvement de la lune? Nous voilà bien accommodés pour tenir registre des choses passées. Je rêvassais présentement, comme je fais souvent, sur ce combien l'humaine raison est un instrument libre et vague. Je vois ordinairement que les hommes, au fait qu'on leur propose, s'amusent plus volontiers à en chercher la raison qu'à en chercher la vérité. Ils passent par-dessus les présuppositions, mais ils examinent soigneusement les conséquences. Ils laissent les choses et courent aux causes. Plaisant causeur. La connaissance des causes touche seulement celui qui a la conduite des choses, non à nous, qui n'en avons que la souffrance. Et qui en avons l'usage parfaitement plein et accompli selon notre besoin, sans en pénétrer l'origine et l'essence. Ni le vin n'en est plus plaisant à celui qui en sait les facultés premières. Au contraire, et le corps et l'âme interrompent et altèrent le droit qu'ils ont de l'usage du monde et de soi-même, y mêlant l'opinion de science. Les effets nous touchent, mais les moyens nullement. Le déterminer et le distribuer appartiennent à la maîtrise et à la régence, comme à la suggestion et apprentissage, l'accepter. Reprenons notre coutume. Il commence ordinairement ainsi. Comment est-ce que cela se fait? Mais se fait-il, faudrait-il dire? Notre discours est capable d'étoffer 100 autres mondes et d'en trouver les principes et la contexture. Il ne lui faut ni matière ni base. Laissez-le courir. Il bâtit aussi bien sur le vide que sur le plein, et de l'inanité que de matière, capable de donner du poids à la fumée. Je trouve quasi partout qu'il faudrait dire « il n'en est rien » et emploierai souvent cette réponse, mais je n'ose, car il crie que c'est une défaite produite de faiblesse d'esprit et d'ignorance. Et me faut ordinairement batteler par compagnie à traiter des sujets et contes frivoles que je m'écrois entièrement. Joint qu'à la vérité, il est un peu rude et querelleux de nier tout sec une proposition de fait. Et peu de gens faillent, notamment aux choses malaisées à persuader, d'affirmer qu'ils l'ont vu ou d'alléguer des témoins desquels l'autorité arrête notre contradiction. Suivant cet usage, nous savons les fondements et les moyens de 1000 choses qui ne furent honque. Et s'escarmouche le monde en 1000 questions desquelles, et le pour et le contre, est faux. Le faux est si voisin du vrai que le sage ne doit pas s'aventurer sur un terrain si glissant. La vérité et le mensonge ont leur visage conforme, le port, le goût et les allures pareilles. Nous les regardons de même œil. Je trouve que nous ne sommes pas seulement lâches à nous défendre de la piperie, mais que nous cherchons et convions à nous y enferrer. Nous aimons à nous embrouiller en la vanité, comme conforme à notre être. J'ai vu la naissance de plusieurs miracles de mon temps. Encore qu'ils s'étouffent en naissant, nous ne laissons pas de prévoir le train qu'ils eussent pris s'ils eussent vécu leur âge. Car il n'est que de trouver le bout du fil, on en dévide tant qu'on veut. Et il y a plus loin de rien à la plus petite chose du monde qu'il n'y a de celle-là jusqu'à la plus grande. Or les premiers qui sont abreuvés de ce commencement d'étrangeté, venant à semer leur histoire, sentent par les oppositions qu'on leur fait ou logent la difficulté de la persuasion, et vont calfeutrant cet endroit de quelques pièces fausses. Outre ce que, avec le goût inné des hommes à alimenter de leur mieux les rumeurs, nous faisons naturellement conscience de rendre ce qu'on nous a prêté sans quelque usure et accession de notre cru. L'erreur particulière fait premièrement l'erreur publique, et à son tour après, l'erreur publique fait l'erreur particulière. Ainsi va tout ce bâtiment, s'étoffant et formant de main en main, de manière que le plus éloigné témoin en est mieux instruit que le plus voisin, et le dernier informé mieux persuadé que le premier. C'est un progrès naturel. Car quiconque croit quelque chose estime que c'est ouvrage de charité de la persuader à un autre. Et pour ce faire, ne craint point d'ajouter de son invention autant qu'il voit être nécessaire en son compte pour suppléer à la résistance et aux défauts qu'il pense être en la conception d'autrui. Moi-même, qui fais singulière conscience de mentir, et qui ne me soucie guère de donner croyance et autorité à ce que je dis, m'aperçoit toutefois, au propos que j'ai en main, qu'étant échauffé ou par la résistance d'un autre ou par la propre chaleur de ma narration, je grossis et enfle mon sujet par voix, mouvement, vigueur et force de parole, et encore par extension et amplification, non sans intérêt de la vérité naïve, mais je le fais en condition pourtant qu'au premier qui me ramène et qui me demande la vérité nue et crue, je quitte soudain mon effort et la lui donne, sans exagération, sans emphase et remplissage. La parole vive et bruyante, comme est la mienne ordinaire, s'emporte volontiers à l'hyperbole. Il n'est rien à quoi communément les hommes soient plus tendus qu'à donner voix à leurs opinions. Où le moyen ordinaire nous faut, nous y ajoutons le commandement, la force, le fer et le feu. Il y a du malheur d'en être là, que la meilleure touche de la vérité ce soit la multitude des croyants en une presse où les fous surpassent de tant les sages en nombre. Comme s'il n'y avait rien de si commun que le défaut de jugement. La garantie du bon sens, c'est la foule des insensés. C'est chose difficile de se résoudre son jugement contre les opinions communes. La première persuasion prise du sujet même saisit les simples. De là, elle s'épand aux habiles, sous l'autorité du nombre et ancienneté des témoignages. Pour moi, de ce que je n'en croirais pas un, je n'en croirais pas cent un. Et ne juge pas les opinions par les uns. Il y a peu de temps que l'un de nos princes, en qui la goutte avait perdu un beau naturel et une allègre composition, se laissa si fort persuader au rapport qu'on faisait des merveilleuses opérations d'un prêtre qui, par la voix des paroles et des gestes, guérissait toute maladie, qu'il fit un long voyage pour l'aller trouver. Et par la force de son appréhension, persuada et endormit ses jambes pour quelques heures, si bien qu'il en tira du service qu'elles avaient désappris lui faire il y avait longtemps. Si la fortune eût laissé amonceler cinq ou six telles aventures, elles étaient capables de mettre ce miracle en nature. On trouva depuis tant de simplesse et si peu d'art en l'architecte de tels ouvrages qu'on le jugea indigne de quelque châtiment, comme aussi ferait-on de la plupart de telles choses qui les reconnaîtraient en leur gîte. Nous nous extasions trompés par la distance. Notre vue représente ainsi souvent de loin des images étranges qui s'évanouissent en s'approchant. Jamais la rumeur n'est transmise sans déformation. Ces merveilles de combien vains commencements et frivoles causes naissent ordinairement si fameuses impressions. Cela même en empêche l'information. Car pendant qu'on cherche des causes et des fins fortes et pesantes, et dignes d'un si grand nom, on perd les vraies. Elles échappent de notre vue par leur petitesse. Et à la vérité, il est requis un bien prudent, attentif et subtil inquisiteur en telle recherche, indifférent et non préoccupé. Jusqu'à cette heure, tous ces miracles et événements étranges se cachent devant moi. Je n'ai vu monstre et miracle au monde plus exprès que moi-même. On s'apprivoise à toute étrangeté par l'usage et le temps. Mais plus je me hante et me connais, plus ma difformité m'étonne, moins je m'entends en moi. Le principal droit d'avancer et produire tels accidents est réservé à la fortune. Passant avant-hier dans un village, à 2 lieues de ma maison, je trouvais la place encore toute chaude d'un miracle qui venait d'y faillir, par lequel le voisinage avait été amusé plusieurs mois et commençait les provinces voisines de s'en émouvoir et y accourir à grosses troupes de toute qualité. Un jeune homme du lieu s'était joué à contrefaire une nuit en sa maison la voix d'un esprit, sans penser à autre finesse qu'à jouir d'un badinage présent, cela lui ayant un peu mieux réussi qu'il n'espérait. Pour étendre sa farce à plus de ressorts, il y associa une fille de village, tout à fait stupide et niaise, et furent trois enfin de même âge et pareille capacité. Et de prêches domestiques en firent des prêches publiques, se cachant sous l'autel de l'église, ne parlant que de nuit et défendant d'y apporter quelque lumière. De paroles qui tendaient à la conversion du monde et menaces du jour du jugement, car ce sont sujets sous l'autorité et révérence desquels l'imposture se tapit plus aisément, ils vinrent à quelques visions et mouvements si niais et si ridicules qu'à peine n'y a-t-il rien si grossier au jeu des petits enfants. Si toutefois la fortune y eût voulu prêter un peu de faveur, qui sait jusqu'où se fût accru ce battelage. Ces pauvres diables sont à cette heure en prison et porteront volontiers la peine de la sottise commune, et ne sait si quelque juge se vengera sur eux de la sienne. On voit clair en cette-ci, qui est découverte, mais en plusieurs choses de pareille qualité surpassant notre connaissance, je suis d'avis que nous soutenions notre jugement aussi bien à rejeter qu'à recevoir. Il s'engendre beaucoup d'abus au monde, ou pour dire plus hardiment, tous les abus du monde s'engendrent de ce qu'on nous apprend à craindre de faire profession de notre ignorance, et sommes tenus d'accepter tout ce que nous ne pouvons réfuter. Nous parlons de toutes choses par précepte et résolution. Le style à Rome portait que cela même qu'un témoin déposait pour l'avoir vu de ses yeux, et ce qu'un juge ordonnait de sa plus certaine science, était conçu en cette forme de parler. Il me semble. On me fait haïr les choses vraisemblables quand on me les plante pour infaillibles. J'aime ces mots qui amollissent et modèrent la témérité de nos propositions. À l'aventure, aucunement, quelque, on dit, je pense, est semblable. Et si j'eusse eu adressé des enfants, je leur eusse tant mis en la bouche cette façon de répondre, enquêtante, non résolutive. Qu'est-ce à dire? Je ne l'entends pas. Il pourrait être. Est-il vrai? Qu'ils eussent plutôt gardé la forme d'apprentis à 60 ans que de représenter les docteurs à 10 ans, comme ils font. Qui veut guérir de l'ignorance, il faut la confesser. Iris est fille de Tomentis. L'admiration est fondement de toute philosophie. L'inquisition, le progrès, l'ignorance, le bout. Voir Dea, il y a quelque ignorance forte et généreuse qui ne doit rien en honneur et en courage à la science. Ignorance pour laquelle concevoir, il n'y a pas moins de science qu'à concevoir la science. Je vis en mon enfance un procès que Corace, conseiller de Toulouse, fit imprimer, d'un événement étrange de 2 hommes qui se présentaient l'un pour l'autre. Il me souvient, et ne me souvient aussi d'autre chose, qu'il me sembla avoir rendu l'imposture de celui qu'il jugea coupable si merveilleuse et excédant de si loin notre connaissance, et la sienne qui était juge, que je trouvais beaucoup de hardiesse en l'arrêt qui l'avait condamné à être pendu. Recevons quelques formes d'arrêt qui disent « la cour n'y entend rien », plus librement et ingénument que ne firent les Aéropagites, lesquels, se trouvant pressés d'une cause qu'ils ne pouvaient développer, ordonnèrent que les parties en viendraient à 100 ans. Les sorcières de mon voisinage courent hasard de leur vie sur la vie de chaque nouvel auteur qui vient donner corps à leurs songes. Pour accommoder les exemples que la divine parole nous offre de telles choses, très certains et irréfragables exemples, et les attacher à nos événements modernes, puisque nous n'en voyons ni les causes ni les moyens, il y faut autre engin que le nôtre. Il appartient à l'aventure à ce seul très puissant témoignage de nous dire « ce tuyau-ci en est, et celle-là, et non cet autre ». Dieu en doit être cru, c'est vraiment bien raison. Mais non pourtant un d'entre nous qui s'étonne de sa propre narration, et nécessairement il s'en étonne s'il n'est hors du sens, soit qu'il l'emploie au fait d'autrui, soit qu'il l'emploie contre soi-même. Je suis lourd, et me tiens un peu au massif et au vraisemblable, évitant les reproches anciens. Les hommes ajoutent plus de foi à ce qu'ils ne comprennent pas. L'esprit humain est enclin à se fier volontiers aux choses obscures. Je vois bien qu'on se courrousse, et me défend-on d'en douter, sur peine d'injures exécrables. Nouvelle façon de persuader. Pour Dieu, merci. Ma croyance ne se manie pas à coups de poing. Qu'ils gourmandent ceux qui accusent de fausseté leur opinion, je ne l'accuse que de difficulté et de hardiesse. Et condamne l'affirmation opposite également avec eux, sinon si impérieusement. Qui établit son discours par braverie et commandement montre que la raison y est faible. Pour une altercation verbale et scolastique, qu'ils aient autant d'apparence que leurs contradicteurs. Que ce soit matière d'opinion, soit, pourvu qu'on ne l'affirme pas. Mais en la conséquence effectuelle qu'ils en tirent, ceux-ci ont bien de l'avantage. À tuer les gens, il faut une clarté lumineuse et nette, et est notre vie trop réelle et essentielle pour garantir ces accidents supernaturels et fantastiques. Quant aux drogues et poisons, je les mets hors de mon compte. Ce sont homicides et de la pire espèce. Toutefois, en cela même on dit qu'il ne faut pas toujours s'arrêter à la propre confession de ces gens-ci, car on leur a vu parfois s'accuser d'avoir tué des personnes qu'on trouvait saines et vivantes. En ces autres accusations extravagantes, je dirais volontiers que c'est bien assez qu'un homme, quelque recommandation qu'il ait, soit cru de ce qui est humain, de ce qui est hors de sa conception et d'un effet supernaturel, il en doit être cru lors seulement qu'une approbation supernaturelle l'a autorisé. Ce privilège, qu'il a plu à Dieu donner à quelques-uns de nos témoignages, ne doit pas être avili et communiqué légèrement. J'ai les oreilles battues de 1000 tels contes. 3 le virent un tel jour, en levant, 3 le virent lendemain, en occident, à telle heure, tel lieu, ainsi vêtu. Certes, je ne m'en croirais pas moi-même. Combien trouvais-je plus naturel et plus vraisemblable que deux hommes mentent, que je ne fais qu'un homme en 12 heures passe, en même temps que les vents d'Orient en Occident? Combien plus naturel que notre entendement soit emporté de sa place par la volubilité de notre esprit détraqué, que cela, qu'un de nous soit envolé sur un balai au long du tuyau de sa cheminée, en chair et en os, par un esprit étranger? Ne cherchons pas des illusions du dehors et inconnues, nous qui sommes perpétuellement agités d'illusions domestiques et nôtres. Il me semble qu'on est pardonnable de mécroire une merveille, autant au moins qu'on peut en détourner et élider la vérification par voie non merveilleuse. Et suis l'avis de saint Augustin qu'il vaut mieux pencher vers le doute que vers l'assurance aux choses de difficiles preuves et dangereuses créances. Il y a quelques années que je passais par les terres d'un prince souverain, lequel, en ma faveur et pour abattre mon incrédulité, me fit cette grâce de me faire voir en sa présence, en lieu particulier, 10 ou 12 prisonniers de ce genre, et une vieille, entre autres, vraiment bien sorcière en laideur et difformité, très fameuse de longue main en cette profession. Je vis, épreuve et libre confession, et je ne sais quelle marque insensible sur cette misérable vieille, aimant qui et parlait tout mon sou, y apportant la plus saine attention que je pusse, et ne suis pas homme qui me laisse guère garrotter le jugement par préoccupation. Enfin, et en conscience, je leur eusse plutôt ordonné de l'élébore que de la ciguë. Le cas parut plus proche de la folie que du crime. La justice a ses propres corrections pour telle maladie. Quant aux oppositions et arguments que des honnêtes hommes m'ont faits, et là, et souvent ailleurs, je n'en ai point senti qui m'attachent et qui ne souffrent solution toujours plus vraisemblable que leurs conclusions. Bien est vrai que les preuves et raisons qui se fondent sur l'expérience et sur le fait, celles-là, je ne les dénoue point. Aussi n'ont-elles point de bout. Je les tranche souvent, comme Alexandre son nœud. Après tout, c'est mettre ses conjectures à bien au prix que d'en faire cuire un homme tout vif. On récite par divers exemples, et Prestensius de son père, qu'assoupi et endormi bien plus lourdement que d'un parfait sommeil, il fantasia être jument et servir de sommier à des soldats, et ce qu'il fantasiait, il l'était. Si les sorciers songent ainsi matériellement, si les songes parfois se peuvent ainsi incorporer en effet, encore ne crois-je pas que notre volonté en fût tenue à la justice. Ce que je dis, comme celui qui n'est pas juge ni conseiller des rois, ni s'en estime de bien loin digne, mais homme du commun né et voué à l'obéissance de la raison publique, et en ses faits et en ses dits. Qui mettrait mes rêveries en compte, au préjudice de la plus chétive loi de son village, ou opinion, ou coutume, il se ferait grand tort, et encore autant à moi. Car en ce que je dis, je ne garantis autre certitude, sinon que c'est ce que lors j'en avais en la pensée. Pensée tumultuaire et vacillante. C'est par manière de devis que je parle de tout, et de rien par manière d'avis. Et je n'ai pas honte, comme eux, d'avouer que j'ignore ce que j'ignore. Je ne serais pas si hardi à parler s'il m'appartenait d'en être cru. Et fut ce que je répondis à un grand qui se plaignait de l'âpreté et contention de mes exhortations. Vous sentant bandé et préparé d'une part, je vous propose l'autre, de tout le soin que je puis, pour éclaircir votre jugement, non pour l'obliger. Dieu tient vos cœurs et vous fournira de choix. Je ne suis pas si présomptueux de désirer seulement que mes opinions donnassent pente à choses de telle importance. Ma fortune ne les a pas dressées à si puissantes et si élevées conclusions. Certes, j'ai non seulement des complexions en grand nombre, mais aussi des opinions assez, desquelles je dégoûterais volontiers mon fils, si j'en avais. Quoi ? Si les plus vraies ne sont pas toujours les plus commodes à l'homme, tant il est de sauvages compositions. À propos, ou hors de propos, il n'importe. On dit en Italie, en commun proverbe, que celui-là ne connaît pas Vénus en sa parfaite douceur, qui n'a couché avec la boiteuse. La fortune, ou quelque particulier accident, ont mis il y a longtemps ce mot en la bouche du peuple, et se dit des mâles comme des femelles. Car la reine des Amazones répondit au cite qui la conviait à l'amour « Le boiteux le fait le mieux. » En cette république féminine, pour fuir la domination des mâles, elle les estropiait dès l'enfance, bras, jambes et autres membres qui leur donnaient avantage sur elle, et se servait d'eux à ce seulement à quoi nous nous servons d'elle par de ça. J'eusse dit que le mouvement détraqué de la boiteuse apporta quelques nouveaux plaisirs à la besogne, et quelques pointes de douceur à ceux qui l'essaient. Mais je viens d'apprendre que même la philosophie ancienne en a décidé, Elle dit que les jambes et cuisses des boiteuses me recevant, à cause de leur imperfection, l'aliment qui leur est dû, il en advient que les parties génitales, qui sont au-dessus, sont plus pleines, plus nourries et vigoureuses. Ou bien que ce défaut empêchant l'exercice, ceux qui en sont entachés dissipent moins leurs forces et en viennent plus entiers au jeu de Vénus. Qui est aussi la raison pourquoi les Grecs décriaient les tisserandes d'être plus chaudes que les autres femmes, à cause du métier sédentaire qu'elles font, sans grand exercice du corps. De quoi ne pouvons-nous raisonner à ce prix-là? De celles ici, je pourrais aussi dire que ce trémoussement que leur ouvrage leur donne ainsi assises les éveille et sollicite, comme font aux dames le croulement et tremblement de leurs coches. Ces exemples servent-ils pas à ce que je disais au commencement, que nos raisons anticipent souvent les faits et ont l'étendue de leur juridiction si infinie qu'elles jugent et s'exercent en l'inanité même et au non-être? Outre la flexibilité de notre invention à forger des raisons à toutes sortes de songes, notre imagination se trouve pareillement facile à recevoir des impressions de la fausseté par bien frivoles apparences. Car, par la seule autorité de l'usage ancien et public de ce mot, je me suis autrefois fait accroire avoir reçu plus de plaisir d'une femme de ce qu'elle n'était pas droite, et mis cela au compte de ses grâces. Torquato Tasso, en la comparaison qu'il fait de la France à l'Italie, dit avoir remarqué cela que nous avons les jambes plus grêles que les gentilshommes italiens, et en attribue la cause à ce que nous sommes continuellement à cheval. Qui est celle-même de laquelle Suétone tire une toute contraire conclusion. Car il dit au rebours que Germanicus avait grossi les siennes par continuation de ce même exercice. Il n'est rien si souple et erratique que notre entendement. C'est le soulier de Théramène, bon à tous pieds. Et il est double et divers, et les matières doubles et diverses. « Donne-moi une drachme d'argent, » disait un philosophe cynique à Antigonus. « Ce n'est pas présent de roi, » répondit-il. « Donne-moi donc un talent. Ce n'est pas présent pour cynique. » Soit que la chaleur dilate en plus grand nombre les conduits et les canaux invisibles par où la sève gagne les herbes nouvelles, soit qu'elle durcisse plutôt la terre et en resserre les veines ouvertes pour qu'elle ne souffre pas des bruines et ne soit pas dévastée par les excès de chaleur du soleil ni par le froid pénétrant de Borée. « Ogni medaglia al suo riverso. » Chaque médaille a son revers. Voilà pourquoi Clitomachus disait anciennement que Carnéade avait surmonté les labeurs d'Hercule pour avoir arraché des hommes le consentement, c'est-à-dire l'opinion et la témérité de juger. Cette fantaisie de Carnéade, si vigoureuse, naquit, à mon avis anciennement, de l'impudence de ceux qui font profession de savoir et de leur outrecuidance démesurée. On mit Ésope en vente avec deux autres esclaves. L'acheteur s'enquit du premier ce qu'il savait faire. Celui-là, pour se faire valoir, répondit monts et merveilles, qu'il savait ceci et cela. Le deuxième en répondit de soi autant ou plus. Quand ce fut à Ésope, et qu'on lui eut aussi demandé ce qu'il savait faire, « Rien, dit-il, car ceux-ci ont tout préoccupé, ils savent tout. » Ainsi est-il advenu en l'école de la philosophie. La fierté de ceux qui attribuaient à l'esprit humain la capacité de toute chose causa en d'autres, par dépit et par émulation, cette opinion qu'il n'est capable d'aucune chose. Les uns tiennent en l'ignorance cette même extrémité que les autres tiennent en la science. Afin qu'on ne puisse nier que l'homme ne soit immodéré partout, et qu'il n'a point d'arrêt que celui de la nécessité et impuissance d'aller outre.